s'appelle M. Trump.
30 décembre dernier, donc l'Union européenne a signé ce fameux accord qui va faciliter les investissements européens sur le marché chinois. Les négociations avaient duré 7 ans, puis d'un seul coup, c'est allé très très vite. Ça s'est fait également dans la plus grande discrétion. Il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu de publication de texte. Son contenu est assez flou, mais on sait au minimum deux choses, que cet accord il va porter essentiellement sur l'automobile et sur les biotechnologies, et que les contreparties chinoises sont assez faibles, voire nulles. Pékin ne s'est fermement engagé ni sur les droits de l'homme, ni sur le respect, par exemple, de la propriété intellectuelle. Puis c'est le timing qui est quand même assez troublant et intéressant. L'accord a été porté, on le sait, par Angela Merkel et signé juste avant que l'Allemagne perde la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. C'est un bien beau cadeau de départ qui a été apprécié par la Chine d'ailleurs. Il a été scellé également en plein pendant cette transition démocratique aux États-Unis dont on parlait. Et puis surtout, et c'est ça qui est intéressant, ça s'est fait quelques jours à peine après les révélations sur les Ouïghours qui sont donc employés de force dans les champs de coton. Et puis on a vu en décembre la France, Emmanuel Macron notamment, faire mine de refuser de signer cet accord si la Chine ne s'engageait pas fermement à abolir le travail forcé. Or, on s'est finalement contenté de ces quelques mots dans le texte, je cite, « La Chine s'engage à faire des efforts continus et durables en la matière, quoi que ça veuille dire. » La répression à Hong Kong, ça n'a rien empêché non plus. Et d'ailleurs, ce matin, dans votre journal, Laurence Defranoux, dans Libération, le jeune activiste hongkongais qui s'appelle Nathan Lo a appelé le Parlement européen à stopper cet accord. Qu'est-ce qui nous a pris de signer cet accord avec la Chine dans ce contexte-là?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'illusion en Europe qu'en signant des accords avec la Chine, depuis l'ouverture de la Chine des années 80, avec l'économie qui va s'améliorer, la montée d'une classe moyenne, elle va petit à petit rentrer dans le droit général, dans le droit universel. La deuxième chose, c'est de se dire, profitons de la transition démocratique pour signer un accord avec la Chine, puisque la Chine et l'Europe sont deux très importants partenaires commerciaux, et pour pouvoir un peu peser dans le jeu mondial avant l'arrivée des États-Unis.
C'est pas un pied de nez aux États-Unis plutôt que de faire un axe Washington et Union européenne contre Pékin?
Pied de nez, je pense pas, mais c'est une manœuvre stratégique pour essayer de peser et ensuite s'affirmer, fait, affirmer son identité avant l'arrivée de l'administration Biden. Mais quand on voit les réactions chinoises depuis l'engagement qui a été fait sur cet accord d'investissement, on voit bien que la Chine se félicite, mais 10 fois plus que l'Europe. Ils sont extrêmement contents parce qu'ils voient une possibilité de division du camp occidental. Et même certains commentateurs chinois disent « Ah ben c'est bien, l'Europe pourra nous servir de média avec les États-Unis. Peut-être qu'ils nous aideront dans notre face-à-face avec les États-Unis.
Bertrand Badie, on se disait quand même qu'avec cette pandémie, la Chine allait se faire discrète. Et en fait, pas du tout. Elle est plus puissante que jamais. Tout à l'heure, je reviens à ma question. Si les sanctions ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui peut fonctionner, si ce n'est les laisser faire?
Oui, d'abord, il faut remarquer une chose, c'est que la Chine a joué deux cartes en même temps. On retrouve cette même dualité que je tenter de poindre tout à l'heure. C'était d'une part l'idée que le coronavirus peut servir d'instrument de propagande, montrer que la Chine, avant les autres, a réussi à vaincre.
Elle le fait avec le vaccin, notamment.
Oui, le vaccin, les masques.
Elle commence avec les masques.
Une façon aussi de montrer que, heureusement que nous, on est là, chinois, pour vous envoyer des équipes médicales, des masques un peu partout en Europe, parce que vous n'avez pas su vous en procurer. Donc ça, c'est le jeu de l'ouverture. C'est l'idée selon laquelle, en entrant intelligemment dans la mondialisation, on peut dominer le monde sans avoir besoin de toucher aux militaires et aux politiques. Donc ça, c'est vraiment...
C'est une façon
extraordinairement habile dont on retrouve avec les traités sur l'investissement exactement la même chose. C'est-à-dire, pourquoi aller chercher le hard power, la puissance dure, la puissance militaire, si on a des moyens beaucoup plus sympathiques et pratiques de progresser? Mais en même temps, la Chine a fait preuve pendant toute cette crise coronavirale d'un durcissement de sa politique internationale et notamment de son rapport au multilatéralisme. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on dénonçait les mauvais États-Unis qui claquaient la porte de l'OMS, qui avaient une politique unilatérale et hostile en matière de coopération sanitaire. Alors que les Chinois, finalement, ont fait presque la même chose. Ils ont fait presque la même chose. N'oubliez pas que la Chine a présidé le Conseil de sécurité en mars 2020 lorsqu'est venue en discussion une résolution sur le coronavirus qui n'a jamais eu lieu parce que l'alliance Pékin-Washington a bloqué le processus.